Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans les voies du crépuscule, nous vous proposons un voyage au cœur des politiques sociales chinoises pour interroger une question essentielle. L'assurance santé ne protège-t-elle vraiment que la santé? Ou est-elle au centre d'information plus profonde, soit-elle économique, institutionnelle et même culturelle? Pour comprendre cela, il faut revenir à 1978, lorsque Deng Xiaoping lance les réformes économiques qui vont propulser la Chine vers une croissance rapide. Derrière ce succès se cache un angle mort, la protection sociale reléguée à l'arrière-plan au nom de la réduction des coûts. Très vite, les conséquences sont meilleures. Avant les réformes, le système reposait sur deux piliers. Dans les campagnes, le Rural Cooperative Medical System, financé par les communes, dans les villes, les schémas de santé liés aux unités de travail. Ces modèles communautaires permettaient une couverture massive et une forte orientation vers la prévention. La transition vers l'économie de marché va bouleverser cet équilibre. Le démantèlement des communes rurales provoque l'effondrement du système coopératif. Des millions de personnes perdent leur couverture. Les paiements individuels explosent et la part de l'État dans le financement de la santé chute brutalement. Résultat, un système fragmenté, inégal et incapable d'amortir les chocs. Ce qui révélera spectaculairement l'épidémie de SRAS en 2003. Face à cette crise, le gouvernement chinois réagit. En 2003, il crée la New Rural Cooperative Medical Scheme, tentative ambitieuse de reconstruire une assurance santé rurale avec des contributions partagées entre État, collectivités et ménages. Mais derrière cette réforme se pose une question centrale pour les sciences sociales. Que signifie assurer la santé dans un contexte où les dispositifs de protection deviennent aussi des instruments de gestion économique, de contrôle social ou de stabilisation politique? C'est précisément ce que nous explorerons ce soir avec notre invité, l'économiste Diana Chong, en mettant en dialogue la Chine rurale et le programme de transfert monétaire en Afrique. Diana Chong, vous êtes maître de conférences à la virgule, pardon.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des rêves lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h.
Bon. Diana Chong, vous êtes maître de conférences à l'ENSAR, École nationale des sciences applicatives et du risque, qui appartient à l'Université de Poitiers. Vous êtes aussi titulaire depuis 2014 d'un doctorat en économie à Paris, en Panthéon-Sorbonne, pour la thèse Four Essays on Inequality and Social Reforms in China. Bienvenue à la voix du crépuscule, Diana.
Merci beaucoup. Merci à l'équipe de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur les différents effets de la mise en place de systèmes de protection sociale.
Merci Diana. Et en quelques mots, et en quoi consistait votre thèse et de quelle façon avez-vous conduit vos recherches?
Alors, moi j'ai fait une thèse par une petite anecdote à raconter. J'ai effectué une thèse suite un séjour en Chine dans lequel j'ai été bouleversée. J'ai particulièrement été bouleversée en observant la population littéralement qui mourait parce qu'elle ne pouvait pas se faire soigner. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de m'intéresser à la Chine, à la protection sociale en Chine. Donc voilà, d'où la génération de cette thèse. Je voulais voir si la mise en place d'un système de sécurité sociale permettait effectivement l'accès aux soins, et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait beaucoup d'autres implications.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle ici spécialement de la Chine rurale ?
Alors on parle de la Chine rurale parce que moi j'ai travaillé sur la partie, on va dire, de la couverture de santé. En fait, la Chine voulait mettre en place un système de couverture santé universelle, sauf que c'est un petit peu particulier puisqu'il y a trois blocs qui se sont faits. Ils ont tout d'abord créé, mais ça je reparlerai plus précisément, mais en gros, ils n'ont pas créé les systèmes de sécurité sociale de manière centrale. Donc ils sont d'abord occupés des employés dans les villes. Ensuite, ils se sont occupés de la population rurale. Et enfin, ils se sont occupés des résidents urbains, de manière plus générale, même ceux qui ne travaillent pas. Et donc moi, j'ai consacré ma thèse au système de sécurité sociale qu'il y avait dans les zones rurales.
Oui, mais dans la Chine, il n'y avait jamais un système de sécurité sociale universel pour tout le monde. Qu'est-ce qui a passé avant, par exemple, de la...
Dans la Chine communiste,
oui. Oui, dans la Chine communiste, dans les premières années.
Oui, d'accord, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé sous l'ère maoïste, hein, pendant l'économie collectiviste, autant dans les villes que dans les zones urbaines, on avait dans les zones rurales, on avait des communes populaires, et dans les zones urbaines, on avait... de la même manière, les habitants qui étaient organisés en unités de production. Donc en fait, ça porte des noms différents en zone urbaine ou rurale, mais le principe est le même, c'est qu'on constituait des unités de production, donc agricoles ou au niveau industriel dans les villes. Et ces unités de production, en fait, constituaient une unité de base où toute la vie se faisait. Donc dans chacune de ces unités de production, donc dans une commune populaire, c'est à la fois une entité politique, administrative, économique et sociale. Donc à l'intérieur des communes populaires, vous travaillez, mais vous avez des écoles, donc vous avez l'école pour vos enfants, et vous avez aussi accès à des soins de santé. Dans le cas des communes populaires, les paysans avaient accès pour... des maladies bénignes à des soins de prévention qui étaient assurés par les docteurs aux pieds nus qui s'assuraient qu'ils ne tombent pas malades. Donc il y avait de la vaccination, des conseils sur l'hygiène et l'anticipation des maladies. Si les paysans étaient un petit peu plus malades, ils avaient accès aux hôpitaux du comté ou de la région.
Et donc tout ça un peu volé en éclats à la fin de la, avec les réformes de Deng Xiaoping. Et donc il y a eu un moment de vide en fait où il y avait plus de couverture santé. Si je comprends bien, vous me rectifiez si je dis des bêtises. Et donc vous le disiez un peu tout à l'heure, mais bon, quel problème de santé publique pouvait-on observer dans les années 80, 90, 2000 en Chine ?
Alors, pour le détail des problèmes de santé publique, je ne le sais pas dans le détail. En fait, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que les gens renonçaient aux soins, ne pouvaient pas se faire soigner. Parce que lorsque les communes populaires ont été démantelées, plus aucun service que nous on qualifie de public... n'était en place. Donc en fait, le gouvernement central a encouragé les praticiens privés à s'installer afin de développer une offre de soins. Mais qui dit offre de soins privés dit coût élevé. Donc la population n'avait plus les moyens d'aller chez le médecin et donc ils renonçaient aux soins. Donc, alors j'ai quelques chiffres dont je ne me souviens plus, mais grosso modo, à l'aube des années 2000, vous avez 25% de la population qui devait aller voir le médecin qui n'y allait pas parce qu'il ne pouvait pas le payer. Et 50%, donc la moitié des personnes qui devaient se faire hospitaliser, n'allaient pas se faire hospitaliser parce qu'ils ne pouvaient pas se faire soigner.
Okay.
Ça se traduit par de forts décès de la population qui n'ont pas lieu d'être.
Oui, on voit un groupe dur et dans les années, à fond des années 70, mais ça, c'est que dans la Chine rurale ou qu'est-ce qui va passer dans la Chine urbaine?
Alors, dans la Chine urbaine, on a constaté les mêmes effets, mais avec une ampleur moindre, puisqu'à l'époque, le gouvernement chinois avait axé sa stratégie de développement principalement sur les activités qui étaient réalisées dans la Chine urbaine. Donc, on avait une stratégie de développement par une économie exportatrice de biens manufacturiers. Et donc, il y a eu un accent qui a été mis un peu sur les zones urbaines. Le système de soins, par exemple, le système de santé, l'assurance santé dans les zones urbaines a été mis en place en amont, avant les zones rurales. Et ils ont eu un choc un peu moins élevé que dans les zones rurales, au final.
Oui, et on va parler beaucoup plus de les sujets après dans les deuxièmes parties. Mais dans vos travaux, on trouve une étude surtout de la new Rural Cooperative Medical Scheme.
Qu'on va appeler NCMS.
Oui, NCMS.
Voilà. NCMS.
Oui, et comment fonctionne le système et cette coopérative médicale dans la ligne? Qu'est-ce qui les différences d'un système de sécurité sociale classique comme le système qu'on a ici en France ou du moins de celui de la Chine urbaine, pardon?
Ok, donc tout d'abord sur le fonctionnement de la coopérative, hein, faut savoir qu'il y a eu un programme pilote qui a été initié à partir de 1997 dans 4 provinces chinoises. Elle a été inaugurée suite aux résultats positifs de ces pilotes en 2003 et visait à couvrir toute la population rurale d'ici 2010, ce qui a été fait. Donc ça s'est étendu progressivement et l'objectif premier de cette coopérative, c'était d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations rurales et également de réduire les risques financiers qu'ils encouraient, en particulier lorsqu'ils avaient des dépenses médicales qu'on nomme catastrophiques, hein, autrement dit très élevées.
Donc, comment ça a marché donc, c'est à peu près en 2003 qu'est vraiment mise en place la NCMS, c'est ça?
Tout à fait, c'est en 2003 qu'elle est inaugurée, qu'elle va se couvrir petit à petit plusieurs comtés. Donc, en 2003, elle couvrait 8% des comtés, en 2004, 15%, et en 2010, elle couvrait tous les comtés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le cadre politique et la mutualisation des fonds récupérés par la NCMS sont décentralisés. Le degré de décentralisation varie selon les provinces et le fonds est, comme vous l'avez annoncé en édito, est financé à la fois par le gouvernement central, donc des subventions du gouvernement central, des subventions des gouvernements locaux, mais également est mentionné par une participation financière des ménages.
Et ce modèle de financement a changé beaucoup de l'ancien système qui a été détruit pendant les années 70?
Je ne saurais pas répondre à cette question.
Désolé. Alors, est-ce que, par contre, on peut tirer un bilan en tout cas, est-ce qu'on a des statistiques sur l'amélioration ou non de l'accès à la santé après la mise en place de la NCMS?
Alors, suite à la mise en place de la NCMS, on constate déjà que 95% des ménages ruraux sont couverts contre 5% des ménages ruraux dans 85, donc ils bénéficient d'une couverture santé. Dans les premiers temps, l'effet de la NCMS sur la santé n'était pas fortement visible, mais sur les études qu'on réalise, pourquoi c'est pas visible? J'ai besoin de l'expliquer. C'est parce que une assurance médicale peut avoir deux effets opposés sur les comportements de consommation. Autrement dit, imaginez que auparavant vous consommiez de la santé, d'accord ? Vous consommiez de la santé et là, quand vous bénéficiez d'une assurance, qu'est-ce qui se passe ? Ben, quand vous voyez le médecin, en fait, ça baisse le coût que vous payez. Donc pour ces personnes-là, l'assurance santé, la mise en place de l'assurance santé va effectivement venir diminuer le coût qu'ils dépensaient. Et donc, ça pourrait permettre de diminuer l'épargne et ils pourraient se dire « bon ben oui, ben, je vais consommer davantage, je n'ai pas besoin de me restreindre ». Dans un autre sens, vous avez également des personnes qui se disent « bon ben, dans tous les cas, moi, je suis tellement pauvre que ce que me rembourse l'assurance santé, ce n'est pas suffisant. Pour moi, je n'arriverai toujours pas à me soigner ». Donc, vous avez toujours les individus les plus vulnérables qui potentiellement ne peuvent pas se faire soigner. Et ça, c'était jusqu'à l'entrée d'une autre modalité de sécurité sociale qui était de couvrir les plus démunis, justement. Donc on parle d'assistance médicale. Et sinon, vous avez aussi les autres qui se disent « Tiens, ben maintenant que le prix des soins médicaux a baissé, si je suis malade, je vais peut-être pouvoir un jour consommer des dépenses de santé ». Donc ces gens-là, ils vont avoir tendance à éventuellement déporter des dépenses de consommation qu'ils faisaient, ne pas les faire, pour attendre un événement
potentiellement catastrophique.
Potentiellement catastrophique. Donc on voit qu'il y a plein d'effets opposés et que quand on mélange tout le monde, on ne peut pas voir si concrètement si y a un effet sur la santé. Quand on commence à séparer les individus en fonction de leur niveau de revenu, on va voir que effectivement on va pouvoir différencier que l'assurance santé ne permet pas aux plus pauvres de se faire soigner. Elle va permettre aux plus riches de continuer à se faire soigner pour les maladies, on va dire bénignes. Elle va permettre aussi aux plus riches de se faire soigner pour les maladies plus importantes, donc en cas d'opération. Et pour les ménages du milieu, les ménages qui ont un revenu moyen, alors eux, c'est très intéressant parce qu'eux, ils ont beaucoup plus accès aux soins primaires et de prévention. Donc eux, ils vont voir leur état de santé s'améliorer. Par contre, ils ont quand même une contrainte financière trop importante en ce qui concerne les dépenses catastrophiques de santé. Donc ces ménages-là, la NCMS ne leur a pas permis d'engager des dépenses de santé catastrophiques, autrement dit de se faire soigner en cas d'hospitalisation ou de maladie très grave. Par contre, elle leur permet de soigner sur des maladies bénignes.
Alors on va faire une première pause dans l'émission. On a trouvé pas mal de chansons qui parlent d'hôpital et de docteurs, etc. Donc on va vous en passer quelques-unes. S'il y a des choses que vous notez qu'on a oublié de dire sur les faits sur la santé, on pourra y revenir un peu dans la deuxième partie, mais on va parler un peu plus d'économie dans la deuxième partie. Hospital bound, so you know there will be treatment. All right, it's too late to put up a fight. Hospital gowns, so you know you should be sleeping. Wide awake, there's some pills that you shouldn't take. You don't
so you know you should be sleeping. Wide awake, there's some pills that I shouldn't take. And I said, alright, let's see.
C'était Counting Crows qui chantait Hospital. Dario.
Bon, nous sommes toujours ici avec Diana Chon, économiste de l'Université de Poitiers. Et comme on a déjà parlé un peu de la NCMS, oui, de la New Cooperative Medical Scan System, on va continuer avec le sujet. Et on pose à vous, Diana, une question que vous avez déjà un peu explorée. Mais est-ce que vous pouvez nous dire et nous expliquer, comment ont évolué les taux d'épargne des ménages chinois, en milieu urbain et rural entre 1990 et 2011? Et en quoi ces différences pourront-elles être lié aux politiques de santé ou de protection sociale, en Chine.
Tout à fait. Alors, le taux d'épargne des ménages chinois urbains a progressé de manière uniforme entre 1990 et 2011. Il est passé de 15% en 1990 à 30,5% en 2011. Le taux d'épargne des ménages ruraux était également à 15% en 1990 et il a augmenté de la même manière, mais avec des fluctuations plus ou moins importantes le long de la période. Donc typiquement, il y a deux fluctuations qui sont à noter. Donc entre 1997 et 2000, le taux de croissance de l'épargne des paysans a été beaucoup plus rapide que celui des citadins, ce qui se traduit par un taux d'épargne des paysans plus important. Il était à 29% contre 21% pour les citadins. Il s'est ensuite stabilisé pour ralentir entre 2003 et 2006. Et ainsi, le taux d'épargne des paysans est redevenu inférieur à celui des citadins. Donc, il était à 25% contre 30%. Il faut savoir que ce sont des niveaux d'épargne élevés. Ils sont nettement supérieurs aux taux d'épargne qui sont observés dans tous les autres pays du monde à la même époque. Et c'est pour ça que tout le monde s'est demandé pourquoi les Chinois épargnaient tant. Alors, du moins les économistes et les politiques. Donc, les économistes, ils sont arrivés avec plein d'idées. Ils ont donné des explications pour ces taux d'épargne élevés. Donc, ils se sont dit, par exemple, qu'il y a eu la privatisation du logement urbain qui a fait que les citadins devaient épargner beaucoup pour pouvoir payer des logements. Et ça, ce phénomène, il a été amplifié par le fait que on a beaucoup plus de jeunes hommes que de jeunes femmes. Et donc, il y a une espèce de compétition sur le marché du mariage. Et donc, pour les jeunes hommes, pour qu'ils puissent se marier, il faut qu'ils puissent être en mesure de montrer qu'ils peuvent acquérir un logement.
Oui, c'est à cause de la politique de fils unique de la Chine.
Enfant unique, oui.
Oui, exactement. C'est à cause de la politique de l'enfant unique. Donc, il y a eu des préférences pour les garçons. Et il y a eu beaucoup de féminicides à la naissance.
Oui, et ça, c'est dans les moyens urbains et ruraux, dans les mêmes situations.
Oui, okay. En zone urbaine comme en zone rurale. Alors nous, en fait, donc ça, c'est des explications qui contribuent à expliquer cette forte épargne. Mais nous, on s'est intéressé aux explications qui tiennent plutôt aux effets de l'incertitude. D'accord ? Une incertitude qui est croissante et qui caractérise les économies en transition comme la Chine.
Ok.
Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand on est passé de la période collectiviste à l'ouverture avec Deng Xiaoping, les communes populaires se sont effondrées, tout le système s'est effondré. Et en fait, les ménages ont commencé à constituer une épargne de précaution importante, afin de répondre à des besoins sociaux tels que la santé, l'éducation. Ils se prémunissaient aussi du risque contre leurs revenus. D'accord, donc en chômage, perte de revenus liée à des pertes agricoles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une forte épargne de précaution. Je reviens à ce que je vous ai dit hein, sur la comparaison des évolutions des taux d'épargne des ménages urbains et ruraux pour vous faire remarquer que les deux décrochages entre l'épargne des paysans et l'épargne des citadins correspondent exactement à l'introduction d'un système d'assurance santé dans les zones urbaines en 1997 et à la coopérative médicale rurale, donc la NCMS, en 2003.
C'est-à-dire que l'épargne baisse au moment où c'est introduit.
Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est ça. On ne peut pas voir le graphique, mais est-ce que l'introduction de l'assurance santé dans les zones urbaines en 1997 a permis de limiter le degré d'incertitude des citadins? Ce qui pourrait expliquer qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu une forte accélération de leur épargne, comme celle qui a été observée chez les ménages ruraux. On peut également se demander si, après, de la même manière, hein, la mise en place de la NCMS en 2003, est-ce qu'elle permet d'expliquer le ralentissement de la croissance du taux d'épargne des paysans. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans nos travaux, en fait. Et notre idée, c'était de dire que mettre en œuvre un système de protection sociale, des filets de sécurité, ça permettait de protéger les individus contre les différents risques de la vie, d'accord, et ainsi de réduire leur épargne de précaution.
Et je me permets une petite question subsidiaire, parce que là, on parle de taux d'épargne depuis tout à l'heure, de taux d'épargne élevé, plus élevé que dans les autres pays. Est-ce que tout ça, ça s'inscrit dans un problème économique chinois? En quoi c'est éventuellement un problème, ce taux d'épargne?
Alors, le taux d'épargne, il constitue un problème pour la Chine parce qu'il est vraiment très élevé. Donc on parle souvent d'un déséquilibre macroéconomique entre la consommation et l'épargne en Chine. D'accord ? Donc vous avez un taux d'épargne très élevé qui témoigne, c'est ce que j'essaye de vous dire en fait, qui témoigne d'une forte incertitude dans l'économie chinoise. Et donc forcément, les gens ne sont pas bien. Cette incertitude, elle est fortement liée à la fourniture de services publics qui n'existent pas à l'époque, donc sur l'éducation, les retraites, les soins de santé. Et on a montré concrètement hein, que le logement en plus, hein, l'éducation, pardon, la santé, le logement et l'incertitude macroéconomique étaient la raison pour laquelle on épargnait beaucoup. Alors, dans certaines théories économiques, c'est bien d'épargner. Parce que, si on rentre dans la théorie économique, on a les deux possibilités. Vous avez les détenteurs, les libéraux qui vous disent « Ah, mais en fait, ce qui crée le développement économique, c'est l'offre. » D'accord ? Donc, les entreprises, elles ont besoin d'investir, elles ont besoin d'innover, elles ont besoin de l'épargne des ménages pour investir. Donc, avoir une épargne, c'est pas mal dans cette économie, parce que l'épargne est utilisée pour investir et produire de la richesse. De l'autre côté, vous avez les Keynésiens qui vous disent « Non, mais en fait, la richesse, le développement, il se fait par la consommation. La consommation crée l'offre. Et donc, en fait, s'il y a trop d'épargne, les gens ne consomment pas. » Donc là, l'idée qui c'est pas bien d'avoir de très forts niveaux d'épargne, c'est que ça peut être un frein à la croissance économique, un mécanisme de croissance économique qui est expliqué par la consommation. Mais là, on a des niveaux d'épargne tellement élevés qu'en fait, ils sous-tendent beaucoup d'autres problèmes dans l'économie.
Merci. Bon, et Diana, et quelles sont les méthodes? On va mettre dans cette question, dans votre recherche, quelles sont les méthodes que vous avez employées pour évaluer l'effet de la coopérative médicale de la NCMS, médicale sur les déséquilibres que vous avez parlé, les déséquilibres macroéconomiques? Qu'est-ce que vous avez fait ou comment vous avez vous avez
procédé.
Oui, procédé pour étudier les problèmes que vous avez parlé.
Oui, alors, pour établir nos résultats, nous, ce qu'on cherche à évaluer, ce n'est pas tant le déséquilibre que les effets de la NCMS sur la consommation, sur l'épargne et sur l'investissement. Et c'est à partir des effets de la NCMS sur ces trois dimensions qu'on va déduire les effets de la NCMS sur le déséquilibre macroéconomique. Donc, ce qu'on voulait voir, nous, c'était si le fait d'être protégé au niveau de sa santé, ça permet de soulager suffisamment les ménages en termes d'incertitude face au risque, de manière à ce qu'ils puissent consommer plus et épargner moins. C'est ce qu'on voulait voir au départ. Donc, comment on a fait ça ? On a procédé par deux biais. On a tout d'abord monter un modèle théorique. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails du modèle théorique. Mais l'idée, c'était d'essayer, quand on fait des modèles théoriques, on essaye de représenter tout ce qui se passe dans l'économie. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait deux périodes de temps où on a introduit l'épargne de précaution et les dépenses de santé. Donc nous, ce qu'on voulait juste voir, c'est comment l'épargne de précaution interagit avec les dépenses de santé. Donc, on va utiliser ce modèle, en gros, pour calculer comment l'assurance maladie publique va modifier la distribution anticipée des dépenses de santé des ménages en fonction de la gravité de la maladie et de leur niveau de revenu. C'est un peu de ce dont je parlais en début de session. Donc, une fois qu'on arrive à voir comment l'assurance maladie publique modifie cette prévision des dépenses de santé qu'auront les ménages. Et je tiens à insister sur le fait que ça dépend de la gravité de la maladie et du niveau de revenu. Il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir si globalement, au niveau macroéconomique, quand on prend en compte tous les agents, enfin tout le monde, on aura un effet. On a une autre manière, plus pragmatique, c'est d'utiliser les évaluations empiriques. Donc quand on fait des évaluations empiriques, on regarde, en gros, directement, on prend des données d'enquête. Donc, on interroge des ménages, on récupère toutes leurs réponses. Et ce qu'on essaye de voir, c'est ce qui se passe pour chacun de ces individus. On les prend et on essaye de voir si, effectivement, la baisse d'épargne observée est bien due à l'effet de l'assurance ou pas. En fait, on ne contrôle pas. Pour tout ce qui pourrait expliquer l'évolution de l'épargne, donc il n'y a pas que la sécurité sociale qui modifie l'épargne. Donc nous, nos méthodes, elles nous permettent de contrôler toutes choses égales par ailleurs. Elles nous permettent de comparer ce qui se passe quand il y a une assurance et quand il n'y a pas d'assurance.
Bon. Et est-ce qu'il est au niveau microéconomique, la coopérative médicale a-t-elle des effets également? Parce qu'on a parlé de macro, mais est-ce que dans les micro, on voit vous avez vu d'un changement dans l'épargne ou dans la consommation, ou est-ce qu'ils vont, ils peuvent acheter une voiture ou une chose comme ça?
Oui, tout à fait. Alors là, moi, les résultats macroéconomiques que je vous donne, ce sont juste des déductions des résultats microéconomiques. Donc, nous, ce qu'on observe dans nos travaux... permettez-moi de retrouver ceci... Alors, de mémoire, puisque je ne retrouve pas exactement les chiffres. De mémoire, ce qu'on trouve, c'est que la NCMS réduit l'épargne de précaution des ménages, mais qu'elle ne réduit pas tout de suite l'épargne des ménages. On a besoin d'un délai de temps encore avant que cette épargne soit diminuée. C'est comme si les individus avaient besoin d'être rassurés sur les modalités de l'assurance, ou peut-être que l'assurance va rembourser un petit peu plus tard, et donc ça entraîne des délais dans la baisse de des comportements d'épargne. Par contre, on a observé que ça permettait d'augmenter, alors là je vais introduire un nouveau concept, l'investissement des ménages. Et que ça l'augmente tout de suite. Ça augmente la consommation et l'investissement des ménages. Mais je crois que on va voir ça plus tard.
Oui. Alors on va peut-être passer à la deuxième pause musicale et on revient là-dessus après. Et on va aussi parler de l'Afrique dans la troisième partie.
Du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Et c'était Van Halen qui chantait Somebody Give Me a Doctor. Alors je crois pas que cette chanson soit un manifeste pour une assurance santé. D'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, Van Halen disait que ça parlait de feeling high and being good. Donc être défoncé et se sentir bien. On est toujours avec Diana Sheng, économiste, qui nous parle de l'assurance santé en Chine. Et Dario, je te laisse la parole.
Oui, et avant de continuer avec notre deuxième partie à propos de l'Afrique, est-ce que, bon, et vous avez parlé, Diana, autour de les effets macro et micro de la Chine, mais on n'a pas toujours parlé un peu de les résultats de votre recherche. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on continue avec l'Afrique, dans quelques mots, donner les résultats et pourquoi ou comment on peut voir que la sécurité sociale ne concerne-t-elle que la santé dans votre recherche?
Oui, tout à fait. Avant la pause musicale, j'étais en train de vous expliquer que la NCMS avait permis de diminuer l'épargne des ménages et augmenter leur taux d'investissement. Donc, si on donne un petit peu plus de précision, j'avais également rappelé que l'effet sur le taux d'épargne n'est pas immédiat, mais il intervient dans les 2 années qui suivent l'introduction de l'assurance santé. Alors que l'impact sur les taux d'investissement se manifestait tout de suite. Donc l'interprétation de ces résultats qu'on a avancé, c'était que les ménages, ils avaient tendance à investir dans leur activité économique, puisqu'en fait dans les dépenses d'investissement, ou dans les dépenses de consommation, ce qu'on a regardé, c'était est-ce qu'ils mangent plus, est-ce qu'ils se font soigner. Est-ce qu'ils achètent du matériel pour leur activité économique? Est-ce qu'ils dépensent plus dans le mariage de leurs enfants? Est-ce qu'ils dépensent plus pour l'éducation de leurs enfants? Et en fait, j'appelle maintenant les dépenses d'investissement toutes les dépenses qui permettent en fait de générer des opportunités pour le futur. C'est pour ça que j'ai switché de la consommation à l'investissement. On va dire que la consommation, c'est consommer des biens. Alors que là, on voit que quand l'épargne diminue et qu'on relâche l'incertitude, on voit clairement que la substitution se fait en faveur de dépenses qui permettent d'investir dans l'avenir. Donc ce qu'on voit concrètement, c'est que les ménages, ils vont acheter du matériel pour leur activité économique. Ils vont également investir dans l'éducation de leurs enfants. Et ils investissent dans leurs enfants, hein, tout simplement via l'éducation, mais via aussi le mariage, qui est quelque chose d'assez particulier. On n'investit pas dans le mariage de ses enfants dans nos pays, mais en Chine, si. Donc finalement, tous nos résultats vont corroborer l'environnement très incertain dans lequel vivent les ménages ruraux chinois. Et on voit aussi, donc ça c'est pas à négliger, que pour les plus riches, qui bénéficient déjà d'autres programmes d'assurance, continuent de dépenser pour l'investissement et pour les dépenses de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le filet de protection sociale, a priori, il n'est pas encore suffisant et qu'investir encore plus dans le système de sécurité sociale ne serait pas superflu.
Bon. Et vous avez parlé un peu dans un système de protection sociale, et il y a des autres effets que la santé directement. Et dans ce cas, vous avez fait quelques travaux dans l'Afrique, spécialement au Cameroun et aussi à Burkina Faso. Mais dans autre, c'est pas un système de sécurité sociale et sûrement centré à la santé, mais on parle dans ce cas des transferts monétaires et directs aux ménages pour améliorer quelques conditions. Et dans ce contexte, par exemple, votre étude menée au Cameroun met en évidence non seulement des effets directs, mais aussi des effets de débordement productif. Comment impliquez-vous les transferts sociaux puissent stimuler l'agriculture et même bénéficier aux ménages non bénéficiaires?
Oui, alors merci pour cette question, hein, parce qu'elle montre à quel point les programmes sociaux ou les aides sociales ont des répercussions sur des choses sur lesquelles on n'aurait jamais pensé, et que même les gens qui ne bénéficient pas directement de ces programmes sociaux en bénéficient. Donc les programmes de transfert monétaire, d'abord, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'équivalent pour nous des allocations qu'on reçoit lorsqu'on est très pauvre. D'accord. Donc, sachant que la population du Cameroun, à l'époque du programme, avait une population pauvre de l'ordre de 70%, donc c'est quasiment tout le monde, on pourrait dire que c'est un système presque quasi universel. En tout cas, ça bénéficie à une grosse majorité de la population. Et donc, le but des transferts monétaires, c'était, de la même manière qu'en Chine, hein, d'offrir une possibilité pour les ménages de lever leurs contraintes financières.
Merci, pardon.
De lever leurs contraintes financières. Et du coup, je me suis perdue.
Désolé.
Bon, donc j'expliquais ce qu'étaient les transferts monétaires. Donc, c'est l'équivalent des allocations. Donc, en gros, c'est un gain d'argent que vous recevez suivant les modalités du programme tous les deux mois ou chaque mois. Donc, sur le programme du Cameroun, ce qu'on a vu, c'est que donner ces transferts monétaires aux ménages bénéficiaires, ça a permis fortement de réduire la pauvreté monétaire, qu'elle soit matérielle, physique, subjective. Ça a permis d'améliorer les conditions de vie des ménages. L'insécurité alimentaire a été réduite de moitié et ça a laissé place à une plus grande diversité alimentaire, à une meilleure nutrition. Les logements sont devenus plus hygiéniques et ça a augmenté également les biens en dépenses d'investissement pour les activités agricoles ou les activités d'entrepreneuriat. Donc, en particulier, l'intervention a permis d'accéder au crédit pour l'investissement productif. Donc vous m'avez demandé, donc directement, hein, les ménages bénéficiaires, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi sur leur parcelle de terre. Ça leur a permis éventuellement de diversifier les légumes et les fruits produits ou le bétail et l'élevage produit. Donc la première manière par laquelle ça bénéficie aux non-bénéficiaires, c'est que ça permet d'apporter une diversification de l'alimentation aux non-bénéficiaires. La deuxième raison pour laquelle ça a eu un effet de trickle-down positif sur les non-bénéficiaires, c'est que finalement, vu que les ménages bénéficiaires ont dû agrandir leurs parcelles, ils ont dû employer des gens pour travailler sur ces parcelles. Et en fait, ils ont employé les non-bénéficiaires. Donc finalement, les non-bénéficiaires ont bénéficié indirectement de ces transferts monétaires via l'emploi et via la possibilité d'acheter des produits qui n'étaient pas accessibles auparavant puisqu'ils n'étaient pas produits.
Bon, merci Diana. On va terminer sur cette réponse. Merci Diana Chon d'être venue dans les voies du Crépuscule et à nous parler de l'assurance santé, des protections sociales et des transferts d'argent et de ces faits, de ces mécanismes sur le bien-être des populations et sur l'économie. Et nous allons terminer cette émission en entendant la chronique de Pascal sur les COP30 et les peuples autochtones.
Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Merci Dario. Le 12 décembre, on va célébrer les 10 ans de l'accord de Paris. Vous vous souvenez, en 2015, nous étions suspendus à la prolongation des négociations entre les dirigeants des pays membres de l'ONU dans l'espoir d'un accord qui a fini par arriver. Accord à minima, mais accord quand même. L'année suivante, à Marrakech, on attendait la COP de l'Afrique et de réels engagements envers les pays du Sud, et on avait été déçus, notamment par la faiblesse des promesses en vue de créer des fonds de 100 milliards de dollars à destination de ces pays pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. 9 ans après, nous savons que nous ne sommes pas dans les clous, mais des études scientifiques ont quand même quantifié les mégatonnes de CO2 qui n'ont pas été émises grâce à l'accord de Paris. En 2025, un petit vent d'espoir s'est levé. Après 3 COP dans des pays ne laissant pas de place à la société civile, place à la COP à Belém, en Amazonie brésilienne, au cœur du poumon de la planète. Cette fois, l'espoir était de voir la COP des peuples autochtones. Pour rappel, les peuples autochtones, ce sont ces peuples, reconnus comme tels par l'ONU et par eux-mêmes, qui entretiennent un rapport particulier à leur territoire et à leur environnement. Ils représentent 5% de la population et gèrent des territoires abritant 80% de la biodiversité mondiale, véritable puits de carbone. plusieurs collectifs autochtones, parmi lesquels la PIB, l'articulation des peuples autochtones du Brésil, mais aussi des groupes du Pacifique et d'Afrique, ont lancé une campagne nommée « La réponse, c'est nous », qui demande à ce que les solutions autochtones soient reconnues comme des solutions officielles au changement climatique. Et pour cela, ils réclamaient une place en tant que négociateurs au même titre que les États.
Est-ce que cette demande a abouti, Pascal ?
On estime que 3000 représentants et représentantes autochtones se sont rendus à Belém pour la COP30, parmi lesquels 1000 ont une accréditation pour être à l'intérieur de la COP. Les 2000 autres se rassemblant au sommet des peuples, une sorte de off officiel. Mais pas de voix à l'égal des États. Le summum de la déconnexion a pu se voir quand des autochtones ont tenté d'entrer dans les zones de négociation d'où ils ont été éjectés. Suite à cela, ils ont bloqué les entrées afin de faire pression pour se faire entendre.
Et quelles sont leurs revendications ?
Les peuples autochtones protestent contre une vision de la transition écologique qui non seulement les exclut, mais accroît la pression minière sur leur territoire, pour par exemple extraire le lithium utilisé dans les batteries. C'est ce qu'on appelle le colonialisme énergétique. Mais on peut aussi considérer leurs demandes sous l'angle des solutions. Si je reprends les mots de la campagne « La réponse, c'est nous », l'action climatique passe par les droits territoriaux. Une demande concrète, c'est que la démarcation des territoires autochtones soit inscrite dans les contributions nationales déterminées. Vous savez, ce sont ces contributions que les pays doivent présenter pour montrer comment ils vont respecter l'accord de Paris. Sur ce point, il est intéressant de noter que l'on obtient des avancées. 107 territoires autochtones au Brésil sont sur le point d'être démarqués. Une autre demande est que les financements pour le climat aillent directement aux communautés. Actuellement, seulement 1% de ces financements vont aux groupes qui protègent leur territoire. Enfin, troisième grand point, que les connaissances autochtones soient reconnues par les gouvernements comme des véritables solutions climatiques. Et pour entrer plus en détail, encore, quelques exemples brésiliens. La demande de l'arrêt du projet de privatisation de 3 fleuves amazoniens, une privatisation en vue de l'élargissement pour faciliter le transport de marchandises. La demande de l'arrêt du chemin de fer Ferrogrão, censé acheminer le maïs et le soja issus de la déforestation vers les ports d'exportation. Et pour finir, je veux souligner l'opposition générale des peuples autochtones au nouveau permis d'exploration de pétrole délivré par le gouvernement Lula dans le nord du Brésil.
Bon, merci Pascal. On ne manquera pas de suivre les dénouements de cette COP30, que l'on espère positif avec un accord et vrai engagement, même si il ne faut pas se les cacher, on n'a pas de gros espoir. Bon, vous venez d'écouter les voix du crépuscule et nous remercions notre invité Diana Chon. Merci Diana, merci Diana, merci Pascal pour sa chronique de la COP. Et aujourd'hui, quand je suis chaman ici au métro, j'ai entendu qu'aujourd'hui il y a eu une espèce d'incendie et au corps de la COP. Et ça, bon, et on voit que dans ce contexte, on voit beaucoup de choses qui ont passé dans Belém. Belém, qui c'est au Brésil, et c'est la COP qui a été attendue pendant, je crois qu'il y a 5 mois et 5 ans, parce que les 2020 ou 2021, qui les gouvernements de Bolsonaro n'ont pas fait la... N'a pas fait la COP là-bas au Brésil, ouais. Et Pascal, tu te rappelles bien, non?
Je suis pas sûr d'avoir absolument compris la question. En tout cas, effectivement, on attendait beaucoup parce que ça faisait 3 ans que les sociétés civiles pouvaient pas s'exprimer depuis Glasgow en 2021. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, non, parce que si je me rappelle bien, et pendant les gouvernements, avant les gouvernements de Bolsonaro, et Lula da Silva a décidé de faire reçu la COP au Brésil, mais le gouvernement a changé et après la COP a été déplacée vers le Chili.
Il aurait pu avoir une COP au Brésil avant, il y a quelques années avant, et comme il y avait le gouvernement Bolsonaro, ça n'a pas pu avoir lieu. C'est possible, c'est possible, mais... oui. En tout cas, on va remercier aussi Fabrice à la réalisation aujourd'hui, et merci à toi Dario pour mené cet entretien.
Oui, on se retrouve le 18 décembre à la Radio Campus Paris. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur
www.radiocampusparis.org.
Vous pouvez nous écrire aussi à l'email lesvoixducrépuscule@radiocampusparis.org et nous suivre sur Facebook, SoundCloud, Deezer ou Apple Podcasts. Et il suffit de taper les voix du crépuscule. On laisse avec Map Monde, l'émission musicale et géographique. Il est bientôt 21h et vous écoutez Radio Campus Paris.